OK, on commence notre 67e leçon sur la théologie systématique. Nous allons voir ce soir l'exhibition de l'alliance de grâce à l'époque de David et des prophètes jusqu'à Christ. Donc, dans les leçons précédentes, on avait vu que depuis la chute, déjà dans Genèse 3, l'Éternel avait déjà donné aux patriarches et à tous les personnages après, et on est rendu... On avait fait les patriarches à partir d'Adam jusqu'à Moïse. On avait fait de Moïse à David. Maintenant, on va voir David jusqu'à Christ, donc la leçon d'aujourd'hui. Ensuite, quand on va avoir terminé aujourd'hui, il va nous rester trois leçons qui vont aller dans le même sens un peu de l'Alliance. Il va rester l'abrogation de l'ancienne Alliance et l'introduction de la nouvelle. Il va rester une leçon sur la loi et une leçon sur l'Évangile. On avait dit qu'aujourd'hui, on regardait comment l'Alliance de grâce avait été exhibée avec le personnage de David lui-même. Donc, la personne de David est utilisée par le Saint-Esprit pour illustrer l'exhibition de l'Alliance de grâce. Comme on avait déjà mentionné dans les leçons précédentes, souvent, dans les Écritures, on peut prendre des personnages et faire un parallèle ou une comparaison avec Christ, mais c'est toujours, à quelque part, c'est vrai qu'il y a des similitudes, mais c'est vrai aussi qu'il y a des grandes différences, parce que quand on parle de David qui est un roi, et qu'on parle que Jésus-Christ est un roi, il y a une similitude, mais on ne parle pas de la même sorte de royauté, avec la même sorte de pouvoir, la même sorte d'étendue. Alors, on sait, c'est important de garder ces choses-là à l'esprit. Les Écritures nous parlent David de Christ dans des similitudes, mais aussi, on sait qu'à quelque part, avec Christ, il y a des grandes différences aussi. Donc, David, les Écritures en parlent comme étant un prophète. Dans Actes 2, versets 29 à 31, nous lisons... « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts » et que sa chair ne verra pas la corruption. Alors, dans Actes 2, versets 29 à 31, on parle de lui comme étant un prophète, et on sait qu'aussi Jésus est un prophète, et qu'il avait, David lui-même avait annoncé certaines choses concernant Christ, par exemple par le fait qu'il ressusciterait des morts, qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, David avait prophétisé sur Christ et sa résurrection. David est un type de Christ. Souvent, la typologie, c'est quelque chose d'intéressant dans les Saintes Écritures. C'est soit une fête, soit un personnage, soit une institution, toutes sortes de choses dans l'Ancien Testament qui sont des symboles et qui pointent vers la venue future de Christ. C'est ça un type. Alors, un type, David est un type de Christ pour plusieurs raisons. Par exemple, le métier. De David. David était un berger. Et on sait que Christ est le grand berger. Comme on dit tantôt, il y a toujours des similitudes, mais il y a toujours aussi des différences qui sont énormes. Psaume 89, versets 3 et 4. « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » Alors, on sait que cette promesse-là a été accomplie en Christ. Autre chose qui sont des similitudes entre la personne de David et la personne de Christ, il y a les offices. Il est prophète et roi. Alors, il était prophète, mais il était aussi roi, David. Christ est aussi prophète et roi. Il y a aussi toutes les afflictions et les persécutions. Comme Christ. Alors, quand on regarde la vie de David dans son ensemble, on voit qu'il y a beaucoup de souffrances. Il a été persécuté par le roi Saül et il y a eu beaucoup de problèmes dans sa vie à cause de sa chute dans le péché. Il y a eu beaucoup, beaucoup de persécutions et beaucoup, beaucoup d'afflictions également. Et là, si on ferait une étude de la vie de David, on pourrait, jusqu'à un certain point, comparer les afflictions de David avec celles de Christ, mais comme de raison, c'est toujours avec... en sachant que celles de Christ sont toujours infiniment supérieures. Il y a aussi toutes les guerres et toutes les victoires de David. David a eu beaucoup de guerres contre les Philistins, contre les ennemis qui entouraient Israël, et il y a eu beaucoup de victoires. Comme Christ a eu ses guerres quand il est venu sur la terre, il y a eu ses victoires aussi. Il y a eu la victoire, avec un L majuscule. Il y a aussi, David avait une connaissance assez approfondie des choses qui concernaient le Christ. Par exemple, le fait que Jésus-Christ soit pleinement Dieu. On avait vu dans les leçons précédentes comment on peut établir que Jésus est pleinement Dieu. Les trois « co » avec un « e ». Co éternel, co essentiel, co égal. Alors, déjà, par le psaume 2, verset 7, lorsque David dit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », c'était des choses qui pointaient vers le Christ, vers la divinité de Jésus. Il y avait aussi les souffrances de Christ qui avaient été prophétisées dans le psaume 22. Le psaume 22 est un psaume qui a été écrit par David. Et si quelqu'un se donne la peine d'analyser, d'étudier le psaume 22 avec beaucoup d'attention, on se rend compte que c'est un psaume qui pointe, qui parle avec beaucoup d'acuité sur les souffrances de Christ. On va juste donner les versets 16 et 18, mais c'est un psaume très intéressant à étudier lorsqu'on veut regarder les souffrances de Christ. Alors, c'est une personne qui avait quand même des connaissances sur le Christ, David. Psaume 22, verset 16 à 18. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Voyez-vous, à l'intérieur même du psaume, il y a des choses qui se sont accomplies quand Christ est venu, par exemple, le fait qu'ils ont partagé ses vêtements, le fait qu'ils ont tiré sa tunique au sort, et toutes ces choses-là qui ont percé ses mains, ses pieds. Mais là, c'est juste deux versets, mais si vous prenez la peine d'étudier le psaume 22, c'est d'une grande, grande, grande richesse pour parler de Christ. Il y a aussi le fait que, parmi les connaissances que David avait de Christ, il y avait aussi le fait de son ensevelissement, de sa résurrection et de son ascension. Acte 2, versets 25 à 31. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Aussi, son autorité à la droite de Dieu. Quand on regarde Hébreux 1, verset 13, qui dit « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? » Ce passage-là fait référence au psaume 110, verset 1. Quand on regarde les psaumes et qu'on voit l'accomplissement dans le Nouveau Testament ou à quelque part, certains passages de l'Ancien Testament sont cités dans le Nouveau, comme par exemple « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied », on le voit dans le psaume 110, verset 1. David avait quand même des connaissances sur le Christ à venir. C'est sûr qu'on pourrait beaucoup développer concernant les comparaisons possibles de David avec le Seigneur, mais on va demeurer là pour aujourd'hui. Deuxième personnage qui était dans la période qu'on vient de parler. Donc, après David, il y a eu son fils Salomon. Et Salomon aussi il y a eu des choses dans l'Ancien Testament qui pointaient, qui avaient certaines similitudes avec le Christ également. 2 Samuel 7, versets 12 à 15. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Et vous, c'est un passage qui parle, le Seigneur parle à David au sujet de son fils qui deviendrait roi et qu'il ne retirerait pas sa grâce de lui. Le nom de Salomon signifie « pacifique ». Il est de la descendance de David. Dieu lui a accordé une sagesse exceptionnelle, une très grande richesse, et il a aussi étendu son royaume. Jésus est de la descendance de David. Sa sagesse et sa richesse étaient sans mesure, et son royaume a été étendu aux gentils. Voyez-vous, il y a des similitudes. On parle d'un qui avait une grande sagesse, même la parole dit de Salomon que c'était l'homme à qui Dieu avait donné le plus de sagesse et qu'il n'y aurait jamais un homme qui dépasserait sa sagesse. Mais cependant, si on compare la sagesse de Salomon avec celle de Christ, c'est intéressant de voir quand même les liens. Et on parle de Salomon comme étant un roi très riche, mais c'est sûr que si on compare la richesse de Salomon avec celle de Christ, c'est encore très petit. Et aussi la question de son royaume qui était étendu. Le royaume de Christ était aussi étendu aux gentils. Donc, des comparaisons comportent toujours des similitudes, mais aussi des différences importantes et même, je dirais, infinies, parce qu'on compare toujours des choses humaines avec des choses divines. Aussi, Salomon avait fait des déclarations sur Christ. On attribue souvent à l'écriture des proverbes à Salomon. Et on a un passage qui nous parle de la génération éternelle de Christ, comme dans Proverbes 8, 23. « J'ai été établi depuis l'éternité. » On parle de la sagesse dans le contexte « dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Alors, Salomon avait quand même certaines connaissances sur l'infinité de Jésus, son omnipotence, son incompréhensibilité, son ineffabilité. Incompréhensibilité, il faut s'entendre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre certaines choses sur Christ, mais quand on parle de l'incompréhensibilité de Dieu, c'est dans le sens qu'on ne pourra jamais épuiser toute la connaissance et tout ce qu'on peut savoir à la fois sur Christ et sur Dieu. Donc, dans ce sens-là, c'est incompréhensible. Il faut s'entendre sur le mot « incompréhensible ». Et « ineffabilité », c'est la même chose. « Ineffable », ça veut dire qu'on ne peut pas parler, aller jusqu'au bout de ce qu'on pourrait dire. Quand on parle que Paul, par exemple, a entendu des paroles ineffables, c'est des choses que tu ne peux pas répéter, ça dépasse la capacité de l'homme à répéter. Proverbe 30, versets 3 et 4. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui fait paraître les extrémités de la terre? Je pense bien que c'est la terre. Le livre aussi, le Cantique des Cantiques. Salomon a probablement écrit le Cantique des Cantiques. C'est, juste donner un exemple, John Gill, qui est le livre de théologie dont on se sert pour les leçons d'aujourd'hui, a fait une série de sermons sur le Cantique des Cantiques. Un sermon par verset. C'est assez raisonnable de faire. J'ai le livre à la maison. Quand il prend ça, là, il fait un sermon, mais vraiment quelque chose de super bien développé, de super intelligent. Verset par verset, tout le livre des Cantiques. Et quel est le fil conducteur, vous croyez? La personne de Christ. Parce que dans le Cantique des Cantiques, on parle d'amour entre Jésus, ou Dieu le Père et ses élus, ou Christ et ses élus. Alors, ce livre écrit par Salomon est un riche étalage des gloires et excellences de la personne de Christ. Maintenant, on a vu Salomon, on a vu David, on a dit qu'on passait jusqu'au prophète, jusqu'à Christ. Maintenant, c'est sûr que là, si on ferait une étude qu'on appelle exhaustive, là, il faudrait prendre toute la Bible complète, prendre prophète par prophète, regarder passage par passage, et de démontrer comment le prophète parlait de Christ d'une façon ou d'une autre, soit dans sa personne, soit dans son œuvre. Alors, les théologiens ont souvent divisé les prophètes en deux catégories. Ceux qu'ils appellent les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc., et ceux qu'ils appellent les petits prophètes, Osée, Nahum, Michée, etc., Jonas, etc. Alors, le fait qu'on appelle un prophète petit, ça n'a pas de référence au fait de son importance. C'est à cause de la quantité d'écrits que le prophète a fait. Par exemple, Ésaïe, c'est un très long livre. Si tu le compares, je ne sais pas, à Nahum ou des petits livres comme Jonas, c'est très petit. Alors, ils appellent les petits prophètes parce que leurs écrits, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas importance, ce n'est pas parce qu'ils ne disent pas des choses très intéressantes sur Dieu. C'est à cause de Jérémie, un grand prophète. Pourquoi un grand prophète? Parce qu'il écrit plus que les autres. Les petits, c'est parce qu'ils ont écrit moins que les autres. Ce n'est pas parce que ce qu'ils ont à dire est moins important. Alors, tous les prophètes, sans exception, ont parlé de l'alliance de grâce. Ont parlé de la grâce. Ésaïe, donnez un exemple. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Prends un exemple dans Zacharie, Zacharie 6, versets 12 et 13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union règnera entre l'une et l'autre. Voyez-vous, Zacharie, quand il dit le nom est Germe, c'est ici. Quand quelqu'un se donne la peine d'aller voir dans les commentaires, le germe, il fait référence au Messie, il fait référence au Seigneur à venir. Là, on a pris deux exemples, on pourrait en multiplier les exemples, il y en a, on pourrait y aller par milliers. Dans le fond, ce n'est pas de démontrer, de faire l'étude, c'est de démontrer que vraiment, Christ est le thème partout dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, on parle toujours quelque part, d'une façon ou d'une autre, de la personne de Christ. Alors, tous les prophètes ont aussi parlé des bénédictions qu'on recevrait en Christ. Par exemple, le pardon des péchés. Par exemple, la justification. Par la justice imputée de Christ, Romains 3, versets 21-22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Aussi par la question de la punition que le Christ subirait à la place de ses élus. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'adoption maintenant, Hébreux 2, verset 13. Et encore, je me confierai en toi, et encore, ben voici, moi et les enfants, que Dieu m'a donné. Le salut spirituel et éternel. Alors, quand on parle des bénédictions que les prophètes parlaient, qu'on recevrait par Christ, c'est sûr qu'ici, on fait juste effleurer le sujet. Par exemple, tous ont parlé que les élus recevraient le salut spirituel et éternel. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voyez-vous, les Écritures sont claires, ça c'est dans le Nouveau Testament. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, il y avait l'Esprit de Christ et il voulait connaître toutes choses concernant la venue future de Christ. Alors, tous, sans exception, les prophètes, ont parlé d'un aspect ou un autre des choses de Christ. Par exemple, son incarnation. Ésaïe 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est clair que dans le contexte, on parle de du Messie, on parle de Christ. Alors, l'incarnation de Christ a été prévue par les prophètes. Le fait qu'il naîtrait d'une vierge, Matthieu 1, verset 22-23, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ésaïe 7, 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Voyez-vous, Ésaïe 7, 14 vient s'accomplir, on a l'interprétation dans Matthieu 1, verset 22-23, qui nous dit que la Vierge sera enceinte, enfantera, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le même nom qui avait été prophétisé par Ésaïe bien longtemps avant. L'endroit maintenant de sa naissance. Michée 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » C'est un verset qui est cité souvent, mais qui était extrêmement important. La quantité de choses qui avaient été prophétisées sur Christ, j'avais déjà lu des statistiques là-dessus. Au point de vue mathématique, il y en a qui ont déjà fait l'exercice de savoir les chances que toutes ces choses-là s'accompliraient dans un seul homme. C'était un ordre, je ne me souviens plus c'est quoi, mais c'était énorme, les chances que ça puisse tout se réaliser dans un homme. Les meurtres des nouveaux-nés à Bethléem. Jérémie 31, verset 15. « Ainsi, par l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. » Il parle du roi qui éliminerait des enfants, qui tuerait tous les enfants en bas de 2 ans quand le Christ viendrait. C'était des choses extraordinaires quand même. Dieu permettait que les prophètes voient ces choses-là d'avance et ils se sont accomplis quand le Christ est venu. Les souffrances de Christ, c'est assez bizarre que les Juifs qui avaient les Écritures, qui avaient quand même certaines connaissances des Écritures, étaient incapables de concevoir un Messie souffrant, alors que c'était dans les Écritures. Pourquoi ils ne le voyaient pas? Parce qu'ils ne voulaient pas le voir. Pour eux, le Messie, c'était un conquérant militaire, c'était quelqu'un qui débarrasserait le pays des Romains, et ils ne voyaient pas Christ comme étant le Messie spirituel qui libérait leurs âmes plutôt que leur corps. Ésaïe 53 est le chapitre classique sur le fait que les souffrances de Christ avaient été prophétisées dans l'Ancien Testament. Tout le chapitre d'Ésaïe 53 est d'une richesse exceptionnelle. C'est un chapitre à étudier. Je vais juste prendre les versets 5 et 6. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Sa trahison pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, versets 12 et 13. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas, et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Et je pris les 30 sicles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Souvenez-vous qu'est-ce qui est passé? Les 30 pièces d'argent avec Judas, tout ça avait été déjà prophétisé dans Zacharie. Et c'est exactement le prix qu'avait estimé Jésus-Christ, 30 pièces d'argent. Et ils l'ont jeté, à l'époque, ils disaient, je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Exactement ce qu'ils ont fait. Ses pieds, ses mains percées. Zacharie 13, verset 6. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Le temps exact de sa venue. Daniel 9, versets 24 à 26, aussi un chapitre très intéressant à étudier de Daniel 9. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Les questions des 7 semaines sont des 2 semaines. On parle d'une semaine, qu'une semaine, ce serait 7 années. Et quand on calcule le temps, ou comme il dit, à partir, dès depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, jusqu'au Messie, il y a 7 semaines, après ça, ce sont les 2 semaines. Quand on calcule ça, le Seigneur il leur donnait une façon qu'ils pouvaient calculer l'année d'arrivée du Seigneur, du Messie. Alors, le temps exact de sa venue avait été prophétisé dans Daniel 9. Maintenant, le fait que le Seigneur aurait un précurseur. On sait qu'à l'époque du Seigneur, les rois, lorsqu'ils se déplaçaient, envoyaient des personnes devant eux qui couraient, ça le dit, un curseur, précurseur, qui courait devant. Alors, ils couraient devant les rois et ils annonçaient, le roi s'en vient, qu'on se prépare, qu'on s'agenouille, etc. Là. Alors, le Seigneur avait dit que, dans Malachie, qui était le dernier livre de l'Ancien Testament, le Seigneur avait dit qu'il enverrait un précurseur devant le Messie. Et on sait que le précurseur du Seigneur, ça a été Jean-Baptiste. Dans Malachie 3, verset 1, le Seigneur dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Sa venue aussi par Siméon et Anne. Dans Luc 1, versets 67 à 72. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Et vous, ça dit que ces choses-là, ça avait été prophétisé dans l'Ancien Testament par ses saints prophètes des temps anciens. Luc 2, versets 25 et 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et vous, jusqu'au Seigneur lui-même, jusqu'à la dernière minute, les prophètes ont reçu de la lumière. Voyez-vous, Siméon, c'était probablement un des derniers qui avait reçu pour qu'il puisse identifier le bébé, le Christ. Le Christ était dans ses mains et l'Esprit avait dit qu'il ne mourrait pas sans qu'il puisse voir le Messie d'Israël. Imaginez-vous la personne qui était un prophète, qui attendait la venue du Messie. Il avait entendu parler de la naissance, de tout ça, mais tu sais, c'était comme vague. Et à partir du moment où l'Esprit lui met dans la tête l'enfant que tu tiens dans tes mains, c'est le Messie d'Israël. J'imagine, la personne, elle devait, comme on dit en québécois, elle devait triper pas à peu près. OK, quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui? J'en ai une facile, mais qui est très importante. Prions le Seigneur de nous accorder la grâce de lire et de comprendre les Saintes Écritures christologiquement. Autrement dit, quand on lit les Saintes Écritures, l'Ancien Testament, cherchons le Christ, car il est présent en toutes ses pages, dans presque tous les versets, ça a quelque part un rapport avec la personne de Christ. Et si on commence à lire les Saintes Écritures de cette façon-là, on ne les comprend plus de la même façon. On cherche Christ et on le trouve, parce qu'il est là, partout. Parce que quand il est avec les disciples d'Emmaüs, il leur a expliqué par les Saintes Écritures tout ce qui le concernait dans les prophètes. Dans toute la Bible complète, il leur a expliqué dans l'Ancien Testament tout ce que les prophètes avaient dit sur lui. Et voir ce qu'on vient de voir ce soir, ma naissance avait été prophétisée, Michée 5.2. Telle affaire a été prophétisée, mes mains. Il a dû faire, je ne sais pas si le discours comment il était long, là. Mais il fallait qu'il aille tout donner ça. Les hommes ils ont dû allumer. Ils ont allumé leur cœur, s'est réchauffé. Alors prions le Seigneur de nous accorder la grâce de lire et de comprendre les Saintes Écritures christologiquement, car il en est la somme et la substance et le fil conducteur. Gloire à Dieu pour son alliance de grâce. Amen. Amen.